Alors, quoi de neuf, docteur ?
Notre route est droite, mais la pente est forte.
La NSA espionnait aussi l'Union européenne à l'ancienne.
La guerre continue.
C'est la réforme, oui, la chienlit, non.
La politique, on a l'impression que c'est comme le Tour de France.
Fais les valises, on rentre à Paris.
Nous ne voulons rien instrumentaliser.
Je vous demande de vous arrêter.
Nous avons décidé de ne pas mentir.
On dénombre 3 264 500 demandeurs d'emploi.
L'armée a repris le pouvoir.
Quoi de neuf, docteur ?
Je ne suis pas revenu à la mairie depuis 2 ans.
Quoi de neuf, docteur ?
Alors, quoi de neuf, docteur ?
Nos chers docteurs se remettent à peine de l'accouchement municipal pratiqué en 2 tours. Ils avaient pris la précaution de se munir de leur forceps, au cas où l'accouchement serait long et difficile. Mais en fait, ils n'ont pas eu à forcer leur talent. La naissance du nouveau-né mère se fit en douceur et sans complications immédiates pour la belle rebelle montpelliéraine. L'avenir nous dira comment se passera la jeunesse et l'adolescence du nouveau-né, dont les initiales s'écrivent PS, comme un clin d'œil ironique à l'histoire. Revenons à nos docteurs. À peine remis de leurs émotions, les voilà prêts à opérer de nouveau sur un thème très délicat, l'euro. La monnaie unique, qui vit le jour dans de nombreux pays à l'aube du 21e siècle. Cette monnaie qui réussit un tour de passe-passe monétaire sans précédent, faisant passer de nombreux produits de consommation courante de 1 franc à 1 euro, sans que les consommateurs ne s'en rendent compte immédiatement. Quand ils eurent compris que 1 égale 6,5, pour simplifier le calcul, il était trop tard. Leur porte-monnaie avait été siphonnée. Alors je me tourne vers mes éminents docteurs. Ont-ils quelques remèdes à nous proposer ? Faut-il sortir de cette monnaie qui plombe notre économie et nos exportations avec sa parité indécente face au dollar ? Faut-il au contraire convaincre les récalcitrants européens genre British de nous rejoindre dans ce bateau ou dans cette galère ? Y a-t-il de l'espoir pour l'avenir de notre vieux continent face aux pays émergents avec cette monnaie-là ? Je suis comme vous, les auditeurs, je suis curieux et impatient d'entendre nos spécialistes en tout nous livrer leurs analyses. Mabuse de retour de campagne, House de retour de vacances et Jekyll de retour de rien du tout sont bien là aujourd'hui pour essayer de nous éclairer. Alors on commence, comme d'habitude, par Mabuse.
Ah non, Mabuse. Mais t'es où, Mabuse ? Oh putain, il a fait les valises ! Il a fait les valises, on a reçu un SMS. C'est la guerre civile à la Fédé. À la Fédé du Parti Socialiste. Et Mabuse est en train d'essayer d'opérer le PS, mais là, vu le cancer généralisé... Oh putain, Mabuse, reviens ! Reviens, ma poule !
Eh ben écoutez, j'espère bien que nous aurons la chance... L'espoir de retrouver notre fameux docteur Mabuse dès la semaine prochaine. Il va pas quand même mettre, je suppose, 1 semaine pour opérer le PS, n'est-ce pas, Jekyll ? Ou d'ailleurs, ou House. Alors, lequel d'entre vous commence ? Oh. Ah, c'est House. Allez, House. Vous avez remarqué quand Mabuse n'est pas là, c'est House.
Ouais, c'est House qui prend le truc. Bon, mais je crois que le thème, c'était l'euro.
Oui, c'est l'euro.
Alors, nous allons parler de l'euro. L'euro... Cette monnaie est vendue comme un signe tangible d'une entité européenne, n'a jamais été conçue pour être réellement adossée à une quelconque souveraineté européenne. L'euro a été avant tout créé pour faciliter, compléter, améliorer le fonctionnement du marché unique, la libre circulation des hommes et des capitaux, et surtout des capitaux. Cette conception trouve ses fondements dans la pensée libérale qui n'accorde de légitimité qu'aux seules forces de la concurrence. Depuis sa création, l'euro a été limité à remplir les 3 fonctions basiques d'une monnaie, à savoir instrument de paiement, de mesure des valeurs, de constitution de réserve, quitte à imposer une politique monétaire unique à 17 pays hétérogènes, aux intérêts structurellement divergents. À défaut de ne pouvoir utiliser le levier monétaire à leur guise pour dévaluer leur monnaie, les États membres de l'UE sont contraints de recourir à des dévaluations sociales. Ces restrictions font qu'une grande masse de la population française voit son pouvoir d'achat stagner depuis 10 années. Dans le même temps, les hauts revenus continuent à connaître une croissance rapide. En résumé, la conjoncture est florissante, pour les couches les plus fortunées. Un taux de chômage à 10,8%, la situation difficile des PME françaises, la perte de parts de marché à l'exportation, incite à remettre en cause la parité trop forte de l'euro. Alors, faut-il sortir de l'euro ? Point d'interrogation. La sortie de l'euro n'est pas, à mes yeux, une fin en soi. Elle n'aurait d'intérêt que si elle s'accompagne de mutations politiques et sociales, en rupture avec la logique néolibérale. Il conviendrait alors de repenser le cadre de nos coopérations avec nos partenaires.
Eh oui, alors Raoult, vous avez dressé ce bilan, on peut dire, bilan de santé, puisque nous sommes chez les docteurs, bilan de santé de...
Photographie.
Voilà, une photographie, un bilan, comment on fait une prise de sang, et puis après on regarde ce qu'il y a. Donc on a bien compris la position de notre docteur House. Et maintenant je me tourne directement vers notre docteur Jekyll, puisque comme vous l'avez compris, il en manque un, Mabuse est aux soins intensifs.
Heureux ? Non, euro. T'en as d'autres des questions comme ça ? Non mais c'est quoi ce Beans ? Peut-on être heureux quand on est totalement démoté, merde.
Démonétisé.
Ah, démonétisé.
Voilà, d'accord. Avec cet euro post-Bretton Woodsien. Comment diable a-t-on pu en arriver là alors que l'affaire était plutôt bien emmanchée ? À cause de ce putain de mur. Mais aussi à cause du Florentin français et de l'ours frileux russe qui, comme chacun sait, n'y entravait que quick aux questions monétaires. Ah, s'ils avaient lu Marx et son Capital, on n'en serait peut-être pas là. Permettez-moi de vous rafraîchir la mémoire un court instant. Tricky Dick, autrement dit Nixon le roublard, procéda à un coup d'état monétaire en août 1971, faisant du dollar la seule monnaie mondialisée. La CE, encore pompidolo-giscardienne, s'émut et inventa une monnaie commune européenne appelée l'écu. Belle idée. Créer un antidollar pour que l'Europe soit européenne et non sous le joug de l'impérialisme yankee. En démocratisant un brin les institutions continentales par le biais du suffrage universel appliqué à l'élection des députés européens en 1979, le couple franco-allemand, Giscardo-Schmittien, mit alors un doigt dans l'engrenage fédéral. Bien joué. Mais il aura suffi que ce salaud de Reagan fasse tomber le mur de Berlin en affamant les soviétiques pour que tout parte en vrille. D'autant que Thatcher veillait dans son cheval de Troie et que Popol II vaticanisait la Pologne avec son Sherpa Valéza. Et ce couillon de Mitterrand d'imposer une monnaie unique à son ami Kohl, l'Allemand, en contrepartie d'une unification au rabais, oublieuse des frontières de 1937. Résultat, nous dûmes consentir à la maison commune d'inspiration gorbatchevienne et à une monnaie unique germanisée, un supermarque. Quelle connerie ! Bien sûr, il fallut en changer le nom, car écu se prononce écho en toton, ce qui signifie vache. Et les Germains refusèrent de payer en steak. Ainsi trouva-t-on le sobriquet « euro » pour qualifier ce qui allait devenir la monnaie unique européenne en 2002. Et tant pis si cela signifiait « vessie » dans la langue grecque. Et depuis, on l'a dans l'os, car la monnaie est totalement indépendante du politique. Elle ne peut qu'être une monnaie forte, alors qu'on aurait pu, on aurait dû, pour une fois, copier le modèle américain avec sa banque fédérale, la Fed, qui est sous le contrôle politique de la Maison-Blanche. Alors depuis, eh ben on rame comme des galériens au service d'un Reich européen qui ne dit pas son nom. Coulons l'embarcation, revenons sur les rives méditerranéennes dotées d'une monnaie fluctuante au gré de nos envies, de nos caprices et de nos besoins. Merde alors !
Merde alors à l'euro, nous dit Jekyll. Ça aurait été un peu étonnant qu'ils nous disent pas ça. Alors, on l'a compris, nous avons affaire quand même à des sceptiques, des euro-sceptiques, pas pour dire l'Europe, mais sur la monnaie. Qu'est-ce que vous en pensez, Abou ? C'est vraiment un scepticisme qui est partagé par beaucoup de nos concitoyens.
C'est pas obligatoirement un scepticisme. Le problème, c'est par exemple quand le docteur Jekyll fait référence aux États-Unis. Je dis que c'est pas un point comparable. En ce sens que les États-Unis d'Amérique ont construit un fédéralisme sur lequel est adossé une monnaie, le dollar.
Unique,
et donc
unique,
à partir de ce moment-là, dans la mesure où c'est un fédéralisme, même s'il y a des autonomies au niveau de certains États, il y a aussi une mutualisation des États, il y a une règle fédérale.
Oui, alors que nous, on a fait le contraire.
Alors qu'en fin de compte, donc, les États-Unis existent politiquement et ils ont une monnaie qui, effectivement, donne à cet État fédéral une puissance. Nous, en quelque sorte, on a fait une Europe, on n'a pas fait un État fédéral.
Ah non, pas du tout. Non,
ça, les fédéralistes européens ont pensé qu'effectivement cette monnaie conduirait éventuellement à un État fédéral. Mais le but premier, ce n'était pas, comme je l'ai souligné, de faire un État fédéral. C'était tout simplement d'assurer les au sein de l'Europe la libre circulation des hommes et des capitaux.
Alors, je suis tout à fait d'accord, parce qu'à l'origine, et c'est l'article 1 du traité de Rome de 1957, l'article 1 dit que le but final de la CE, c'est de créer les États-Unis d'Europe. Donc, à l'origine, il y a bien une volonté fédérale.
Entre la déclaration d'intention.
Oui, mais après, quand tu vois avec Pompidou, et surtout avec Giscard, et avec Helmut Schmidt, et tout, qui crée l'ECU, justement, qui crée le Parlement européen élu au suffrage universel direct, il y avait un soupçon, un début de quelque chose qui aurait pu être du fédéralisme. Et tout d'un coup, le mur de Berlin qui tombe. Et c'est là où ça part en vrille. Parce que du coup, il faut qu'on récupère la mythole Europa, l'Europe centrale. Chevènement l'avait dit, faute de quoi on risquait d'avoir un quatrième Reich. C'était l'expression même de Chevènement à l'époque. Et en contrepartie de tout ça, on oblige Helmut Kohl à avoir une monnaie unique. Et Kohl, alors que Mitterrand ne comprend rien à l'affaire, Kohl lui dit bon, d'accord, mais à la condition que la Banque Centrale Européenne soit totalement indépendante du politique. Et là, c'est foutu.
Si tu permets, tu nous décris effectivement un certain nombre de faits historiques et tu nous racontes l'histoire. Mais maintenant, ce qu'il faut quand même bien voir, c'est qu'effectivement, l'Europe a été construite avec des gens qui, en fin de compte, excusez-moi l'expression, s'en branlaient du fédéralisme.
Bah, c'est des banquiers, non ?
Parce que la véritable pensée libérale, c'était qu'effectivement, une monnaie, pour être parfaite, devait être détachée des États. Elle devait être guidée simplement par les marchés. C'est les marchés qui devaient la guider. Et donc, à partir de ce moment-là, et au contraire, même y compris ceux qui voulaient, à l'exemple, et c'est pour ça que les Allemands ont gagné dans cette conception, c'est que ce qu'ils voulaient, c'était une monnaie qui, d'un côté, soit stable, empêche l'inflation, puisse permettre de supprimer toutes les barrières douanières, c'est-à-dire effectivement donner soi-disant de la compétitivité aux
produits européens,
aux entreprises, etc., de la zone, etc. Donc tout était pensé pour effectivement, et c'est pour cette raison qu'on nous avait promis la croissance, la prospérité.
Et de ne plus pouvoir jouer sur la valeur de la monnaie.
Et à l'arrivée, en quelque sorte, ce marché unique qui devait effectivement mettre les entreprises en concurrence, aujourd'hui, force est de constater qu'il ne met pas les entreprises en concurrence, mais il met les États
en concurrence.
Alors comment peut-on construire un fédéralisme lorsqu'effectivement les États sont mis en concurrence? C'est là où se pose le véritable problème européen. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, on le voit avec le dumping fiscal, on le voit y compris au niveau, si tu veux, de la construction d'une Europe sociale. C'est que, y compris aujourd'hui, on raisonne sur les modèles sociaux moins de 10 ans, y compris européens.
Oui.
En prenant un exemple, un coup sur l'Europe, sur l'Angleterre, un coup sur l'Allemagne, un coup sur l'Italie, un coup sur les uns et les autres.
Oui, voir sur la Pologne, la Roumanie,
etc. Pas sur la Grèce, hein. Peut-être pas.
Et donc, à partir de ce moment-là, bon, alors moi, ce que j'en dis, c'est que l'euro en lui-même, et là, je clôture le fond de ma pensée, c'est que l'euro en lui-même, c'est pas tellement l'euro. L'euro, en fin de compte, ça a été tout simplement, à mes yeux, le cadenas, ou le verrou, mettez-y le nom que vous voulez, qui effectivement a été posé dans une boîte qui a fermé, en quelque sorte, et qui a emprisonné, en quelque sorte, et d'où la difficulté aujourd'hui.
Là où je suis d'accord avec House, c'est surtout sur l'expression d'évaluation sociale. Je trouve que la formule est jolie, et pertinente et efficace. Parce que justement, faute de pouvoir faire une dévaluation monétaire, véritablement, on en est arrivé à une dévaluation sociale, que tu déclinais en disant baisse du pouvoir d'achat, hausse du chômage, baisse des exportations, c'est exactement ça. Donc du coup, crise, et crise infinie. Enfin,
Docteur Jekyll, juste une seconde, et vous ne croyez pas aussi que ça a basculé à partir du moment où il y a eu cette parité entre le dollar et l'euro qui était scandaleuse? C'était un euro trop fort.
Mais et qui arrive à partir du 21 mars 2003.
Voilà, c'est ça.
Or,
c'est ça.
Le 21 mars 2003, peut-être que c'est le hasard absolu. C'est le jour où les États-Unis ont attaqué l'Irak. Or, on sait qu'à partir du moment où la parité était au-dessus de 1,07, ça voulait dire que c'était l'Europe, l'euro, qui allait financer l'armée américaine, la guerre en Irak. Depuis le 21 mars 2003, on n'est jamais redescendu en dessous du 1,07.
Oh bah non, largement.
Aujourd'hui, on est à un 40.
Là, tu parles de la parité de l'euro, qui effectivement,
vis-à-vis du dollar,
à mes yeux, est trop forte. Mais ce qu'il faut voir, et peut-être c'est ce que disait notre ami Lamouche.
Ah, merci quand même.
C'est qu'effectivement, dès le départ, par rapport aux marques, l'euro était sous-évalué, il était surévalué par rapport au franc. Et le bilan de la chose, c'est que 10 ans après, on voit que l'augmentation des prix en Allemagne a été de 10%, alors qu'elle a été en France de 25%. Et dans certains pays comme l'Espagne ou l'Italie, c'est 30-35%. La Grèce, j'ose pas en parler.
Avec des salaires, notamment en France, qui sont bloqués.
Et en Allemagne, la stagnation du pouvoir d'achat, c'est-à-dire qu'en fin de compte, tous les efforts de croissance qui ont été faits pendant 10 ans ont été bouffés là-dedans. Et la compétitivité, soi-disant, allemande, elle la trouve, y compris dans les gènes de départ. Parce qu'effectivement, elle avait des atouts que d'autres n'avaient pas.
Alors, un autre problème qu'on n'a pas évoqué, parce qu'a priori, ce n'est pas directement lié à l'euro et pourtant ça lié, c'est lorsqu'en janvier 1973, alors que Giscard était encore ministre des Finances de Pompidou, enfin à l'époque de Pompidou, où la décision a été prise que la France, et puis après les autres pays ont suivi derrière, ne pourrait plus emprunter à la Banque de France, mais devrait emprunter à des banques privées.
Sur le marché.
Et que ça a complètement plombé, ça a mis les finances de l'État français aux mains complètement des marchés financiers, des marchés bancaires.
Tu as entièrement raison. Et même moi, y compris, moi, l'explication que j'y donne, elle est tendancieuse, diront certains. Mais moi, je prétends qu'effectivement, c'est par rapport à la création future d'une banque européenne,
centrale,
il fallait au préalable que les États se dessaisissent effectivement de ces prérogatives-là, de façon à ce qu'il y ait une unité. Parce que si effectivement il n'y avait pas eu ces mesures qui avaient été prises à l'initiative de Giscard en France et puis comme taches d'huile sur d'autres pays, il y aurait eu des difficultés à créer une banque centrale européenne. Ou alors il aurait fallu passer de suite à une étape supérieure dont personne ne voulait. C'est là où le fédéralisme, point d'interrogation.
Oui, à moins que le traité constitutionnel européen de 2005, organisé à partir de 2003, ait été fait correctement, intelligemment, etc. Ce qui n'a pas été le cas, et où les Français l'ont refusé, l'ont dit derrière, et puis bon, ça a complètement cassé le machin, sachant que le fameux traité simplifié de Lisbonne de 2008, il reprend 5 des 6 chapitres
De Maastricht
du traité constitutionnel. Sauf que les 5 chapitres qui sont repris sont des chapitres exclusivement économiques et monétaires. Ouais. Et le seul chapitre qui était le premier chapitre du traité constitutionnel, qui était un chapitre institutionnel, véritablement, celui-là, il est passé carrément aux oubliettes. Donc c'est un véritable scandale, quoi.
Alors,
c'est clair.
Mes chers docteurs, vous savez, cette émission prend fin. Ça dure un certain temps, ça dure 20 minutes. On est quasiment arrivé à la fin. On en avait 2, docteurs, mais on a eu quand même beaucoup d'explications. Le troisième aurait peut-être eu autre chose à nous raconter. Peut-être nous expliquer comment le Parti Socialiste s'est rallié à cette Europe monétaire, je ne sais pas, on verra ça une autre fois, et corps et âme, c'est le moins qu'on puisse dire. La semaine prochaine, nous n'avons pas encore déterminé de quoi il s'agira, notre discussion de la semaine prochaine, bah, écoutez, vous le verrez bien.
Ouais, c'est une question, on rentre dans la question européenne et tout, oui. Je propose qu'éventuellement, on en discutera, on pourrait parler de frontières.
Ah, les frontières.
Mais frontières prises dans toutes les acceptions
du mot. Terme, oui, d'accord. Terme. Alors, bah, écoutez, probablement, nos chers docteurs, la semaine prochaine, qui seront 3, je l'espère, nous parlerons donc de ces frontières dans tous les sens de ce mot. Alors, eh bah, écoutez, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous appréciez cette petite émission du samedi. Et je vous dis à samedi prochain pour les toutes dernières nouvelles de demain.
Alors, quoi de neuf, docteur ?
Notre route est droite, mais la pente est forte.
La NSA a espionné aussi l'Union européenne à l'ancienne.
La guerre continue.
C'est la réforme, oui, la chienlit, non.
La politique, on a l'impression que c'est comme le Tour de France.
Fais les valises, on rentre à Paris.
Nous ne voulons rien instrumentaliser.
Je vous demande de vous arrêter.
Nous avons décidé de ne pas mentir.
On dénombre 3 264 500 demandeurs d'emploi.
L'armée a repris le pouvoir.
Quoi de neuf, docteur ?
Je ne suis pas revenu à la mairie depuis 2 ans.
Quoi de neuf, docteur ?
Alors, quoi de neuf, docteur ?